Hello, this is the Rights Protection Meeting.
Bonjour, il s'agit de la réunion sur la protection des droits de 13h30, heure locale, Buenos Aires, 18 novembre, salle Saint-Elmo.
We'd like to invite everyone.
Nous aimerions vous inviter à nous rejoindre ici autour de la table pour commencer la séance. Plutôt que de vous asseoir derrière nous, au fond de la salle, nous vous invitons à nous rejoindre ici. Si vous avez des questions, si vous pensez avoir des questions à l'avance, veuillez vous rapprocher donc de cette table pour être près d'un micro. Merci.
Good afternoon.
Bonjour à tous. Nous allons commencer la réunion du mécanisme de protection des droits sur les GTLD. Venez nous rejoindre ici à cette table. Rapprochez-vous d'un micro si vous pensez que vous allez avoir une question. Nous avons une présentation qui va avoir lieu et ensuite il y aura une séance de questions-réponses. Est-ce que les scripts sont prêts?
I'll turn it over to Karen Lentz.
Je vais passer maintenant la parole à Karen Lentz. Merci Christine. Donc Karen Lentz au micro. Bonjour à tous. L'objectif de cette séance était de réfléchir un petit peu à l'initiative sur la protection des droits qui fait partie du nouveau programme GTLD, étant donné que tout au long de l'histoire, dans la mise en œuvre et dans le développement du programme dont nous disposons aujourd'hui, la protection des droits a constitué un élément essentiel des débats. Donc le besoin de renforcer la protection des droits dans ce domaine a été souligné. Nous allons voir pourquoi le Bureau central des marques de commerce a été créé et d'autres aspects dont je vais vous parler. Je crois que la plupart d'entre vous connaissent déjà cela, mais dans l'histoire du développement du programme, nous avons commencé avec le lancement du processus GNSO, avec des orientations de nombre d'autres groupes et organismes ici dans l'univers ICANN. Un jalon important a été la recommandation de l'IRT qui a proposé un certain nombre de solutions qui, pour la plupart, ont finalement été adoptées pour ce programme. Il y a eu un certain nombre de consultations également sur ces propositions. Il y a eu une autre équipe multidisciplinaire qui a examiné cela. On a créé un groupe à cet effet, le STI. Le GAG a été également présent sous forme d'un dialogue avec le conseil d'administration, ce qui a donné lieu à la création du Bureau central des marques de commerce. Cela est censé décrire les mécanismes qui s'appliquent à la protection des droits et à la façon dont ils peuvent intervenir. L'objectif du TMCH est de soutenir la phase initiale. Il y a un service initial pour la période de lancement. Et une fois que cette période arrive à échéance, il y a encore un service de protection des droits à disposition sous forme des procédures de règlement de litige après délégation dont je vais vous parler par la suite. Donc parlons du TMCH, Bureau central des marques de commerce. Il y a une séance mercredi qui va se concentrer sur le processus en lui-même. Nous allons avoir un collègue d'IBM qui va présenter cette séance plus en détail. Instruction pour l'utilisation de ce bureau central. Je vais en parler également et je vais vous parler des dernières avancées dans ce domaine. Ce bureau central était censé être un dépositaire mondial des données relatives aux marques de commerce. Il fallait que les uns et les autres aient les mêmes informations et de la même manière que les registres et bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre puissent avoir une même source de données fiable sur laquelle compter. Autre objectif de ce bureau, son rôle est d'aider. Et il n'a pas de fonction d'éducation et ne se trouve pas au-dessus d'un autre organe. Il ne s'agit pas pour ce bureau de créer d'autres droits. Donc il s'agit simplement d'aider au lancement des TLD. Dans le cadre des fonctions de ce bureau central, son objectif sera de soutenir les requêtes initiales, les requêtes relatives aux marques de commerce, leur donner l'opportunité de demander des noms avant qu'ils soient disponibles d'une manière générale. Il s'agit d'un service de notification qui est une condition requise pour les nouveaux GTLD et les nouveaux enregistrements. Donc, les titulaires de noms de domaine qui veulent enregistrer leur nom, et une fois que ce nom est enregistré, le titulaire du domaine recevra une notification à cet effet pour qu'il puisse décider d'une action ou pas. Vous voyez ici à l'écran une tentative de décrire les différentes fonctions de ce bureau central des marques de commerce et qui intervient ici. Il y a une petite confusion, une certaine confusion par rapport aux questions qui fait quoi et comment cela s'imbrique. Donc, il y a une sorte de classification par rapport aux questions qui sont posées, questions qui s'adressent à l'ICANN, aux questions qui s'adressent aux fournisseurs de services Internet et autres. Sur ce diagramme, vous voyez un petit peu la base de données du bureau central, quelles sont les contributions qui proviennent des services de vérification. Les détenteurs de droits interagissent avec Deloitte. Et ensuite, la contribution de cette base de données provient du service initial de requête qui sont fournis par IBM. Les services de vérification, comme j'en ai parlé plus tôt, sont disponibles depuis 6 mois. L'objectif étant pour ce bureau de centrale de fournir des services de vérification. Donc depuis mars, il y a un traitement de 1700 dossiers pour l'instant. Et nous avons la possibilité d'associer différents noms de marques. Donc s'il y a une décision de justice sur des marques spécifiques dans un bureau central, elles peuvent être vérifiées et peuvent être incluses dans ces services. Vous voyez ici le lien pour obtenir davantage d'informations dans ce domaine. Dans ces services de phase préalable au lancement, nous avons également un accès pour connaître l'environnement en partenariat avec IBM. Qui teste l'environnement. Et donc, une fois que cet accord est passé, on définit l'environnement, on le teste. Ceux qui n'ont pas encore signé d'accord, mais qui font une demande de GTLD, vous voyez ici le deuxième lien à l'écran, qui demandent également des bureaux d'enregistrement accrédités auprès de l'ICANN. Ensuite, il y a les informations IBM concernant leurs services. Et deuxième lien qui contient toutes les informations concernant les annuaires et autres informations sur ces services. L'une des choses qui se profile pour le bureau central des marques, du point de vue technique, ce sont les dossiers SMD. Donc, chaque dossier étant considéré comme potentiellement candidat au lancement, pendant cette phase préalable, est examiné. À l'origine, on ne savait pas combien de temps cette phase préalable allait durer et on proposait une période où les données qui avaient été enregistrées auparavant étaient traitées et utilisées. Mais en plus de cela, il nous faut revoir les SMD et aligner donc cette période sur celle des bureaux centraux des marques. Donc, du point de vue de l'utilisateur, il fallait que cela soit plus simple. Et on essaie de voir comment solutionner cela pour essayer d'aligner les choses. Donc, on va publier d'autres informations très prochainement sur ce sujet. J'en viens aux conditions RPM. Mécanisme de protection des droits, et il s'agit de quelque chose que nous développons depuis un an maintenant. Les conditions RPM, il s'agit des conditions selon lesquelles les bureaux d'enregistrement et registres que ceux-ci doivent respecter pour s'enregistrer. Et cela est lié au mécanisme donc de protection des droits et donc au titre de l'accord. On en a parlé avec la communauté depuis un moment maintenant. Comment créer un processus et des conditions minimales qui soient respectées tout au long du processus et les aligner et les adapter aux différents modèles commerciaux qui existent. Donc ce processus a été finalisé et en septembre, nous avons émis ces conditions qui font partie maintenant de l'accord. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce sujet, il y a un lien qui figure ici et qui est disponible avec la foire aux questions qui concerne cette section, ainsi que les programmes pré-lancement dont je vais vous parler par la suite. Autre condition, envoyer une notification de ce que l'on appelle information TLD, et cela fait partie des informations nécessaires qui nous permettent de voir en amont quelles sont les politiques mises en place et quelles sont les besoin pour la mise en œuvre, pour fixer également les dates pour le lancement, voir quelles sont les politiques qui s'appliqueront dans cette période de temps. Nous allons donner également des informations par rapport à la période de lancement et autres. Il y a également la possibilité pour le registre d'accorder une période supplémentaire, mais c'est facultatif. Certains opérateurs le font, d'autres non. Les informations sont collectées. Et ils les soutiennent au CIS. Une fois que l'ICANN reçoit ces informations et cette demande de registre, le TLD est donc transféré, les informations sont reçues, l'ICANN assume le rôle de vérification de disponibilité en coopération avec IBM, le fournisseur. Le registre ou opérateur de registre n'a pas besoin de s'adresser de manière individuelle à IBM. L'ICANN va procéder à une révision directe de ce qui lui est soumis, voir si les dates respectent bien les conditions nécessaires et si tous les éléments requis sont inclus dans le dossier. Donc ça fait partie de la révision. Et s'il n'y a pas de problème, alors l'ICANN publiera cette information. Une fois que cette notification est donnée, alors la phase préalable de lancement peut être lancée pour tout nouveau GTLD. Et donc, cela se produit après délégation. Quels sont les principes de cette phase préalable de lancement? Tous les enregistrements doivent se fonder sur des conditions semblables, donc enregistrer son nom. Vous voyez ici un lien pour obtenir plus de détails sur la SND. Voir également si il y a des restrictions spécifiques, telles que la date à laquelle ce bureau central ou cette marque de commerce a été créée, les biens et services, le type de biens et services de cette marque, s'il y a des restrictions d'enregistrement par rapport au fait qu'il s'agit d'une marque fondée sur la communauté. Et on peut appliquer cela lors de la période préalable au lancement. Et je vous en dirai un petit peu plus dans une seconde. Diapo suivante. Il y a toute une série d'options par rapport à la période en question, la période préalable au lancement et la période d'achèvement. Dans cette période préalable au lancement, on peut désigner des noms et il y a une période minimale de 30 jours où cette possibilité de désigner des noms a lieu. Ensuite, période où s'achève cette période préalable au lancement, minimum de 60 jours à partir de la notification.
Donc voilà ce que je voulais vous montrer comme visuel, comme graphique. Vous voyez le début de la période, vous avez la période de 30 jours et la période en elle-même de 30 jours et ensuite l'enregistrement général qui se fait. Donc vous avez également une période de 60 jours, ça c'est en bas sur le transparent, avant donc l'enregistrement général qui se fait. Donc maintenant, la résolution des conflits, c'est quelque chose sur lequel on a reçu beaucoup de questions. Qu'est-ce qui est requis pour ces SDRP? nous demandons que cela soit inclus avec toutes les informations de départ, la pochette d'informations de départ pour les TLD. C'est donc à la discrétion du registre et du bureau d'enregistrement. Si nous avons des critères supplémentaires ou pas, si l'ICANN a des critères supplémentaires à respecter, quels sont-ils ? Tout cela doit être clairement indiqué. C'est l'opérateur de registre qui doit gérer cela. Dans certains cas, il y a une partie tierce également, un prestataire de service qui est une partie tierce. Ce n'est pas requis, ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité qui s'offre à l'opérateur de registre. C'est une possibilité, le cas échéant, pour leur TLD. Donc, diapo suivante. À la suite de cette phase préalable, nous avons ensuite une période d'enregistrement limitée. C'est une période durant laquelle un registre va répondre à certains critères, il y a certaines restrictions qui sont imposées par l'opérateur de registre durant cette période pour enregistrer un nom de domaine. Là aussi, ce n'est pas une obligation. La période peut être décidée par l'opérateur de registre. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent, beaucoup de latitude pour les opérateurs de registre à ce niveau. La RLP, c'est l'acronyme, donc cette période limitée d'enregistrement sont donc optionnelles, comme je l'ai dit. Mais il y a un système de priorité qui est mis en place. Attendez, on va revenir un petit peu en arrière, parce que je n'ai peut-être pas tout couvert, j'ai oublié un point, c'est que tout cela, le système doit continuer à être fonctionnel pendant cette période. La centralisation donc des marques commerciales doit continuer à être effectuée. Donc nous avons ensuite cette période de demande pour les marques commerciales qui dure durant les premiers 90 jours. Le bureau d'enregistrement a quelques obligations à ce niveau. C'est un service de notification fourni par IBM, comme nous l'avons dit, où l'on peut avoir accès à toutes les données nécessaires par rapport au titulaire de nom de domaine. Et ce service est disponible pour les marques commerciales. Nous avons également disponible un document dans les 6 langues onusiennes qui peut vous être fourni sur demande pour plus d'informations sur ce point. Nous avons les programmes approuvés de lancement. Donc ça, c'est dans un cas de figure où un opérateur de registre veut lancer, par exemple, une jeune pousse, une nouvelle entreprise. Et il n'y a donc pas les mêmes critères qui se jouent. Il n'y a pas encore eu de publication. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a un lien hypertexte qui se trouve à l'écran. Donc, on suppose qu'il y aura donc une approbation à ce niveau. On considère à l'ICANN que ces demandes spécifiques doivent être détaillées, doivent être soutenues par une documentation solide. Est-ce qu'il y a des inquiétudes, des préoccupations par rapport au nom de domaine, par rapport à la protection des droits qui rentrent en ligne de compte ? Est-ce qu'il y a d'autres types de préoccupations pour les consommateurs, est-ce qu'il y a un risque de confusion par rapport au nom de domaine ? Et il y a une supposition que cela va être approuvé. On suppose que cela va être approuvé. Et une fois que le registre a reçu toute la documentation, eh bien là, il y a une période qui est plus ou moins longue, une période d'analyse et de revue de ce nom de domaine, et un lancement est ensuite approuvé pour le nom de domaine. Nous vous demandons toujours de faire des demandes individuelles à ce niveau. Et nous considérons cela au cas par cas. Oui, je crois qu'on était un petit peu trop vite dans notre présentation des transparents. Je voulais ajouter quelque chose. Dans ce processus de lancement, nous avons parfois beaucoup de demandes, beaucoup de requêtes, et nous les analysons en ce moment même, donc cela prend évidemment du temps. Donc quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une réponse? Eh bien, il s'agit là des premiers noms de domaine, des premières que nous faisons. On ne sait pas exactement combien de temps cela va prendre, puisque c'est une première, mais nous allons faire le maximum pour agir rapidement et statuer rapidement. Donc maintenant, nous pouvons passer au transparent suivant. Un autre sujet sur lequel nous avons reçu beaucoup de questions, ça s'appelle, entre guillemets, « sans nom ». Donc, à quoi se réfère-t-on? À beaucoup de choses, en fait. Je vais essayer de clarifier un petit peu les choses. Nous avons des noms qui ont été réservés sans nom de domaine par rapport à l'avis du TLD. Il n'y a pas de restriction sur le moment où l'on peut obtenir ces noms de domaine. Donc vous avez cette possibilité, ce chiffre limité à 100, 100 noms de domaine. C'est une affectation de 100 noms de domaine par TLD. En ce qui concerne les critères RPM, le mécanisme de protection des droits, eh bien, par rapport à ce processus, nous pouvons utiliser ces 100 noms, cette affectation des 100 noms à une partie tierce, et cela peut être intéressant dans certains cas. Durant la période phase préalable, pour promouvoir un TLD, ça peut être très intéressant. Et j'aimerais souligner que le programme de lancement qualifié n'existe pas encore. L'intention que nous avons à ce niveau, c'est que cela s'applique généralement, de manière générale, et que nous sommes, comme je l'ai dit, encore en train d'y travailler, mais c'est pour donner la possibilité à des opérateurs de registre de travailler plus ou moins vite. Je ne veux pas rentrer dans les détails, chaque situation est spécifique. Est-ce que cela est une possibilité pour tous les opérateurs de registre, par exemple? Nous avons ces 100 noms, cette affectation limitée à 100 noms. Nous avons les parties tierces qui peuvent toujours demander, s'ils sont approuvés dans la phase préalable, peuvent continuer à déposer des dossiers de demande, de candidature, à effectuer des requêtes avant qu'un processus général ne soit développé. Donc, je vais maintenant passer la parole à Christa qui va nous parler un petit peu plus de procédures de résolution de conflits à la suite de la délégation. Oui, merci beaucoup Christine Rabeck. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec cette présentation sur ces procédures de résolution. Il y a 4 procédures différentes qui peuvent être utilisées pour faire des rapports. Vous les avez à l'écran. Vous avez la procédure de résolution de disputes des engagements d'intérêt public, procédure de résolution des disputes à la suite des délégations qui concernent les marques commerciales. C'est le TMPDDRP. Et vous avez également le RDDRP, ainsi que l'URS, qui est un petit peu plus simple, qui est le système uniforme de suspension rapide. Donc, nous allons commencer par le pic DRP. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette procédure de résolution des conflits par rapport à l'engagement dans le cadre de l'intérêt public ? Il y a notre spécification numéro 11 du contrat pour les opérateurs de registre, qui est beaucoup plus clair là-dessus, qui donne beaucoup plus de détails, donc je vous y renvoie. Il y a deux types de PIC. Il y en a un qui est obligatoire, qui provient des conseils du GAC, qui provient des contrats pour 2013, des contrats d'accréditation de bureaux d'enregistrement. Ils sont obligatoires par tous les opérateurs de registre. Et nous demandons au registre d'être utilisé uniquement dans le cadre d'un contrat 2013, un RAA, un contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement 2013. Il y a également, dans le cadre des PIC obligatoires, que l'opérateur, donc, dans son contrat, demande au bureau d'enregistrement d'inclure cela dans le contrat, que ce soit clair et net, que cela soit précisé, et que cela rentre en vigueur, qu'on n'ait pas de maliciel qui puisse être utilisé, qu'on lutte contre le piratage, contre le phishing, contre les pratiques de déception, de contrefaçon et des activités qui vont à l'encontre de la loi. Il y a également un critère dans le contrat RA que l'opérateur ait une analyse technique qui se fasse du TLD de manière régulière pour que les domaines du TLD n'aient pas de problèmes de sécurité pour l'Internet, les problèmes de sécurité dont je viens de vous parler. Le TLD doit donc être géré de manière transparente et ces chaînes génériques ne peuvent pas imposer une exclusivité. Nous avons maintenant un autre type de PIC qui est volontaire, sur une base volontaire. Il y a certains dépositaires de dossiers qui se sont engagés pour l'intérêt public d'une manière tout à fait volontaire, selon leur gré, qui protègent plus avant les marques commerciales, qui ont donc une protection de la vie privée très forte, qui ont des règles sur l'acceptation de l'utilisation de ces TLD. Ils sont incorporés dans le RAA, dans le contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement. Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, nous avons notre deuxième période de commentaires publics qui vient de s'achever, et je vais en parler au prochain transparent, mais la version la plus courante, la plus actuelle, est que un rapporteur soumet avec un formulaire internet, formulaire web, au département du RAA, des contrats d'accréditation, et à ce moment-là, il y a un critère où l'ICANN fait une première analyse. À la suite de cette première analyse, eh bien, l'opérateur de registre travaille étroitement pour résoudre le problème. Et à partir de cela, la conformité des services de conformité de l'ICANN donne droit ou pas à l'utilisation de ce nom de domaine. Sinon, on réfère ce rapport à un panel d'experts qui va pouvoir statuer. Donc, transparent suivant. Le deuxième période de commentaires publics pour les PICDRP révisés, qui s'éclose le 14 novembre 2013. C'est donc un PICDRP révisé. Nous évaluons actuellement les commentaires que nous avons reçus. Nous compilons tout cela pour faire un rapport d'analyse que nous espérons soumettre dans la semaine du 25 novembre. et les formulaires de soumission de rapport sont disponibles au lien que vous avez sur l'écran. Vous pouvez, dès aujourd'hui, dès maintenant, soumettre ces rapports, ces formulaires de soumission pour la conformité. Maintenant, nous allons passer au PDDRP concernant les marques commerciales. Donc, une nouvelle fois, il s'agit là de procédures de résolution de conflits post-délégation. Et ces procédures gèrent les droits de marques commerciales et les droits qui sont enfreints par un RO, par un opérateur de registre. Lorsque l'on enfreint des droits par rapport à une marque commerciale, problème d'adresse, tout cela est facilité par les fournisseurs de services approuvés par l'ICANN, et les plaintes passent par l'intermédiaire du site web du prestataire de services. Nous avons donc ces règles qui ont été publiées le 15 octobre 2013. C'est des règles d'engagement, si vous voulez, qui ont été publiées le 15 octobre. Vous l'avez sur le microsite. Vous avez trois prestataires de services DRP, le forum d'arbitrage national. Vous avez le centre de résolution de conflits pour les noms de domaine pour l'Asie et l'organisation de la propriété intellectuelle mondiale qui s'appelle la WIPO. Ou MPI en français. Donc, vous avez ces trois prestataires de services pour les procédures de résolution. D'ici la fin décembre, nous aurons donc ce centre en Asie et ce forum de résolution d'arbitrage national. Vous avez ici des liens hypertextes pour pouvoir soumettre une plainte et obtenir plus d'informations sur l'Internet sur ces centres de résolution de conflits et sur ces différents prestataires de services. Nous allons maintenant passer au ERDRP, qui est une procédure de résolution de conflits en ce qui concerne les registres et leurs restrictions. Là, on gère des circonstances où il y a une déviation un petit peu des opérateurs de registres des lignes de conduite d'inscription qui sont dans le contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement. Donc c'est une spécification 12 pour la communauté, pour les communautés Internet. Donc les institutions établies peuvent déposer des plaintes et utiliser le système de résolution de conflits RRDRP dans ce cas. Il y a la soumission d'un rapport donc, qui est fait auprès de l'ICANN avec la communauté de ce nom de domaine de premier niveau. Et dans le cadre de ces prestataires de services RRDRP, eh bien, il faut soumettre tout d'abord un rapport à l'ICANN. L'ICANN analyse le rapport, la teneur du rapport. Une fois que cela est accepté, la première analyse qui est faite par l'ICANN, eh bien, il y a une plainte auprès du RRDRP, auprès du prestataire RRDRP. C'est comme cela que cela est organisé. Pour le RRDRP, nous avons un seul fournisseur de services, qui est le forum d'arbitrage national, qui est actuellement opérationnel. Vous avez les liens sur l'écran. Vous pouvez obtenir des formulaires initiaux disponibles également à l'adresse de l'ICANN. Et vous avez également la publication des règles et des procédures qui a été faite le 15 octobre de cette année, le 15 octobre 2013. Maintenant, parlons un petit peu plus du système uniforme de suspension rapide. URS, eh bien, cela a été développé lorsqu'il y a des marques commerciales qui sont enfreintes. C'est plus rapide et cela ne coûte pas très cher, moins de $500. Lorsque c'est en faveur de la personne ayant déposé la plainte, eh bien le nom de domaine est suspendu et il y a le site d'information de l'URS qui est utilisé. C'est une procédure pour les opérateurs de registre principalement. C'est principalement entre l'opérateur de registre, la personne qui dépose la plainte et le fournisseur URS. Nous avons deux prestataires de services, une nouvelle fois le Forum d'arbitrage national et également le Centre de résolution des conflits pour les noms de domaine en Asie. Nous avons un troisième candidat qui est évalué, mais les NAF et le Centre de résolution des conflits pour les noms de domaine en Asie est également, l'ADN DRC est également opérationnel. Nous avons résolu notre premier cas, c'était facebook.pw, donc ça marche. Ça a marché en tout cas pour cela, ce système uniforme de suspension rapide pour déposer un dossier, une plainte. Vous pouvez le faire auprès du Forum d'arbitrage national ou de l'autre entité pour l'Asie. Ensuite, on va statuer sur la validité du cas et c'est une plainte par rapport à la conformité qui peut être déposée auprès de l'ICANN également. Nous avons un lien qui est à l'écran, en bas de l'écran. Je vous remercie de votre attention. Ma présentation est maintenant terminée. Très bien. Donc, je vais essayer de modérer un petit peu le débat. Je pense qu'il y aura des questions au sujet de tous ces points. Donc, je vais donner la parole à Don, Dirk. Donc, nous allons commencer par vous. Oui, merci beaucoup. Merci pour ces présentations. Beaucoup de détails. C'est très bien, beaucoup de travail à faire pour nous. J'aimerais poser une question sur la définition des affectations ou allocations. On a parlé un petit peu de cela. Vous avez vu les articles peut-être récemment sur différentes interprétations du terme allocation en anglais. Donc c'est une règle dans la phase préalable. Il y a des interprétations qui sont parfois un petit peu spéciales. Pourriez-vous nous donner clairement une définition du terme en anglais allocation, allocation ou affectation en français? Oui, merci Jeff. C'est une question difficile. Je vais essayer d'y répondre avec mes propres termes. Il y a une définition qui se trouve dans les critères RPM. Donc, je ferai la différence entre j'aimerais avoir ce nom, je m'intéresse à ce nom, et je pourrais mettre mon nom dans le whois en tant que personne est en tant titulaire d'un nom de domaine. Et donc, si on commence à interpréter les termes qui sont dans le RPM, eh bien, nous avons vu un certain débat, en effet, à ce niveau. Nous y avons assisté et je ne connais pas tous les détails pour ces opérateurs de registre. Donc j'aurais du mal véritablement à voir si c'est en conformité ou pas par rapport aux règles de l'ICANN. Mais il me semble très clair que la communauté a beaucoup travaillé sur le développement de ces mécanismes et sur ces détails de mise en œuvre. Et il me semble que notre équipe conformité à l'ICANN est vraiment au niveau par rapport aux critères qui doivent être respectés. Et nous prenons cela très au sérieux. Nous avons des attentes fortes pour que tout le monde s'aligne sur ces critères de conformité. Et l'objectif étant que le fonctionnement se fasse sans heurts et que tout le monde ait la même compréhension du fonctionnement.
Okay. Dirk.
Oui, je reviens à un point essentiel du DMCH et de du fait qu'il soit apte à la candidature. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer de nouveaux droits ? Et nous avons demandé à l'ICANN, qu'en était-il des marques commerciales qui contiennent un point ? Est-ce qu'elles sont exemptées de ce DMCH par rapport à l'accord de par rapport aux points Berlin qui ne sont pas éligibles ? Nous avons une marque commerciale qui commence par point Berlin dans le registre européen. Et il n'y a eu aucun motif exprimé sur la raison pour laquelle ces marques commerciales ont été exemptées. Et nous pensons qu'il s'agit d'une exemption qui n'est pas justifiée et que les motifs ne nous sont pas clairs. Merci, Dirk. Merci. Je peux vous dire que nous avons reçu vos commentaires. Je sais que vous n'avez pas encore reçu de réponse, mais nous en avons une pour vous. Donc, votre question porte sur la règle qui fait partie de la brochure des candidats pour les points qui ne sont pas apte pour la candidature. Il y a une restriction qui a été développée dans le cadre du TMCH lors du développement de ce programme et qui figure dans ce manuel d'orientation pour les candidats. Et la raison de cela, c'était que d'abord, du point de vue juridique, on essayait de maintenir le principe selon lequel les marques commerciales sont une source particulière par rapport au nom de domaine. De plus, je crois qu'il y avait une préoccupation par rapport au fait que les gens aller tenter d'enregistrer des marques commerciales afin d'obtenir certains noms de domaine et que l'interaction entre le DNS et le système des marques commerciales pourrait donner lieu à des résultats indésirables. Donc, je comprends très bien leurs préoccupations et ce type de commentaires sur ces marques commerciales, mais à l'heure actuelle, c'est la règle qui s'impose. Amadeo. Bonjour à tous. J'aimerais une précision sur des points qui ne me sont pas clairs par rapport à ce qui a été dit. J'aimerais savoir si j'ai bien compris. D'abord, pour ce qui concerne la politique pour la résolution des litiges, je pensais que l'objectif était de mettre en place une politique mise en place par une procédure externe. Or, j'ai maintenant l'impression que c'est quelque chose de facultatif. Est-ce qu'il s'agit d'un fournisseur ou prestataire externe ou est-ce que cela peut être résolu par l'opérateur de registre lui-même ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit à ce moment-là ? Oui, je crois effectivement, dans beaucoup de cas, l'opérateur de registre peut se lancer dans une expertise pour voir ce qui est disponible, et dans d'autres cas, l'opérateur de registre peut avoir un réseau communautaire ou commercial pour traiter ces requêtes d'une autre façon. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, oui. Amadeo Micro, oui. Peut-être qu'il serait bon d'avoir ce prestataire, mais ça n'est pas exclusif. Merci pour cette précision. Deuxième point que j'aimerais que vous précisiez concernant 2.3.1 et les marques commerciales. Il est dit que la juridiction des données concernant les marques commerciales, les juridictions où ces marques ont été enregistrées, n'est pas simplement la juridiction du titulaire ou du résident. Est-ce que c'est bien cela? Je peux dire point Buenos Aires, c'est simplement pour les marques sur le territoire argentin. Est-ce que c'est cela selon... Oui, effectivement. D'abord, où a été enregistrée la marque commerciale? Et deuxième point, la juridiction du titulaire du nom de domaine, qui peut être différente de la précédente. Donc, il y a deux juridictions qui peuvent entrer en jeu. Amadeo Micro. Oui, j'ai une question peut-être plus longue, donc je vais peut-être laisser la possibilité aux autres d'intervenir et la poser plus tard. Mais j'ai une suggestion à l'adresse de l'ICANN. Pourquoi ne publiez-vous pas la liste des problèmes? Nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes. Pourquoi ne publiez-vous pas les résultats? On ne propose pas une période de public de commentaires formelle en tant que telle. Mais si vous voulez plus de transparence, pourquoi ne pas publier la demande lorsqu'elle est faite? Nous savons tous ici ce qui est en cours et on en tirerait tous pleinement parti. Merci de cette suggestion, on va la prendre en considération. Merci, nous avons une question à distance.
Check. The question from the remote participant is...
Oui, la question est la suivante. À New York, il y a 255. Quelle est la règle pour laquelle on peut assigner ou affecter les noms de domaine aux entités locales appropriées? Merci de cette question. Je crois que cela peut varier en fonction de ce que veut faire l'opérateur de registre par rapport à l'affectation des noms et pourquoi il veut le faire. Si le registre ou opérateur de registre veut faire quelque chose par rapport au nom des quartiers qui ne serait pas permis au titre des procédures de RPM. Donc, on peut le prendre en considération lors de la phase préalable au lancement. Merci, Karen. Claudio de l'IPC. J'ai deux questions par rapport à cette phase préalable. Est-ce qu'il y a une condition par rapport au contrat d'accréditation avant la période préalable au lancement? Autre question. Est-ce qu'il y a une condition par rapport à ce contrat? Est-ce que cela doit être mis en place avant la phase préalable de lancement? Merci. Oui. Je voulais vous poser la question. Est-ce que vous vouliez poser tout de suite votre deuxième question, dit Karen. Oui, quelles sont les conditions pour les SRP? DSRP, pardon. Alors, première question. Existe-t-il une condition spéciale qui doit être mise en place avant la période de préalable au lancement? Il y a ici un membre de l'équipe juridique. Je n'ai pas les termes du contrat sous les yeux, mais je crois que cela doit être disponible pour les titulaires de noms de domaine. Oui. Il s'agit des premières questions de ce type qui sont traitées. Donc au fil du temps, on va avoir une vision plus claire des choses. Donc on va se pencher sur cette question. Mais il y a d'abord la phase préalable de lancement. Ça ne va plus être le cas avec les opérateurs de registre à l'avenir. Donc, il faut d'abord que les titulaires de noms de domaine fassent la demande. Oui, mais par rapport au TLD, oui, je crois que quelqu'un a répondu à cela. Si on pense à cette phase préalable, il s'agit d'une phase initiale, justement. Donc je pense qu'à la fin de cette période, les choses vont fonctionner normalement. Merci, Dan. Par rapport à la deuxième question, est-ce qu'il y a des conditions minimales requises pour les DSRP? À l'origine, il y avait 4 types de cas ou 4 figures. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, qu'on a établi le TMCH, on a couvert cela par les procédures du TMCH. Et on s'est penché sur ce qui avait été accepté ou pas. Et ensuite, ce qui n'avait pas été couvert, c'était la chose suivante, les opérateurs de registre qui n'avaient pas pu obtenir leur inscription et qui n'avaient pas pu obtenir le nom qu'ils voulaient. Et ça c'est un cas de litige. Et dans la mesure où les opérateurs de registre font des choses très spécifiques, le type de litige varie et la façon dont on va le traiter également en fonction des conditions ou des motifs à l'origine de ce litige. Quant aux autres spécifications de ce qui doit être inclus, je dirais que lorsque l'opérateur de registre n'inclut pas ces informations, voilà, c'est une condition minimale qui doit être respectée. Si vous essayez d'obtenir beaucoup d'informations sur ce que fait l'opérateur de registre, c'est également très important. Moi, j'y prête personnellement beaucoup d'attention. Merci. J'ai encore une question de Bertha, Philippe et Jim sur ma liste. Ensuite, une question à distance, puis Christine, Tony. Et de ce côté-ci, qui d'autre voulait intervenir? Dirk. Donc, Bernard. Merci. J'ai une question pour faire face aux abus des TMCH, en particulier la pratique qui veut que les marques commerciales soient enregistrées dans le but d'obtenir un terme générique enregistré. Par exemple, quelqu'un obtient le nom santé et prise en charge. J'ai vu Jen et Eva pour Geneva, donc Genève en anglais. Et ici, Donc, l'accent est mis sur santé et prise en charge ou protection. Et cela ne figurait pas spécifiquement sur la liste. Et donc, il y a un privilège, un droit. Soins de santé, point New York, point NYC, point Paris. Et cela ne peut pas être permis, parce que c'est mauvais pour la réputation du TLD. Donc, que pouvons-nous faire face à cela ? Face à ce type de cas, nous avons des solutions, mais je ne sais pas comment gérer cela dans le contexte des procédures et des règles en place pour le TMCH. Merci, Bernard. Donc, votre question concerne une marque commerciale qui a été accordée, donc vous voulez savoir si elle a été accordée comme marque commerciale, et ce bureau central des marques de commerce a une procédure ou un mécanisme en place pour faire la distinction ou examiner ce bureau central collecte les informations dans le cadre de la procédure préalable de lancement, comme vous l'avez dit. Donc, par rapport au fait d'accepter les règles actuelles en place à ce bureau central, il n'y a pas de mandat précis là-dessus. Il faut voir ce qui a été fait dans cette juridiction. Il y a eu un cas où une marque commerciale a été enregistrée avec une procédure de résolution de litige qui existait déjà par rapport au nom enregistré. Et donc, comme on vient de le dire, il y a des procédures spécifiques préalables au lancement. Et donc, le cas auquel vous faites référence, la façon dont le TMCH a été conçu et construit n'envisage pas de rôle pour ce bureau pour prendre des mesures dans ce sens. Mais peut-être qu'on peut en parler ensuite en face à face. Bien.
Je m'appelle Phil Corwin. Une petite question au niveau de l'association du commerce sur l'Internet. On nous a indiqué que l'objectif était de donner au titulaire de nom de domaine une notification s'il y a déjà un terme qui a déjà été enregistré, et donc d'avoir une notification pour ces titulaires de nom de domaine pour voir s'ils veulent poursuivre ou pas, s'ils veulent, il y a des risques de poursuite judiciaire ou pas, s'ils veulent retirer leur demande, leur candidature. Donc je crois que dans notre système de centralisation, il y a des choses très simples sur les marques de commerce qui doivent être respectées, qui sont enregistrées, mais on a marque commerciale plus 50, donc la possibilité d'enregistrer 50 différentes variations pour qu'il n'y ait pas de marque commerciale qui soit enfreinte. Donc il me semble que la description des droits est un petit peu différente à ce niveau. Dans un IDRP, il y a un droit potentiel à une objection, mais le fait est que la marque commerciale n'est pas obligatoirement enfreinte. J'ai donc soumis une lettre au nom de l'association du commerce sur l'Internet. Au niveau des différents droits, au niveau des différentes variations, beaucoup de titulaires de noms de domaine ne sont pas au courant de tous ces problèmes juridiques très complexes. Donc cela va leur permettre de déterminer du fait que cela s'applique ou non à eux. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de différenciation entre les différents types de droits. Et ma question est, est-ce que cela est un petit peu gravé dans la pierre, ou bien est-ce qu'il y a la possibilité pour les titulaires de noms de domaine d'avoir une différenciation plus forte pour que ces titulaires de domaine puissent prendre des décisions informées? C'est ça la question qui se pose. Si vous n'avez pas d'avocat, de conseiller juridique pour vous aider, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai peur que beaucoup de personnes et de titulaires de noms de domaine se mettent à retirer leur dossier de candidature parce qu'ils sont un petit peu peur de toutes ces répercussions juridiques. Oui, en ce qui concerne la notification, nous avons utilisé des termes très précis. C'est la communauté qui a rédigé cela parce que les objectifs étaient très clairs. Il s'agissait de droits et d'implications, en effet, de répercussions importantes pour enregistrer ces noms de domaine. Donc vous avez un texte au début, vous avez des termes très clairs. Vous pouvez ou ne pouvez pas avoir le droit d'inscrire votre nom de domaine, ça dépend des noms, des lois de votre pays, de la juridiction dans laquelle vous êtes situé. Je crois que cela s'applique toujours, je crois que ces termes s'appliquent toujours. C'est étiqueté un petit peu différemment, mais cela s'applique toujours. Et il me semble que lorsque nous avons ces étiquetages un petit peu différents qui deviennent des demandes, des véritables requêtes, eh bien là, on compare avec les archives de services de centralisation des marques de commerce. Et je crois que le texte général, au cas par cas, s'applique toujours, mais nous avons, dans ce système de notification, une mise à jour qui a été effectuée, et les derniers critères RPM sont un petit peu différents. Il y a une distinction qui est faite, il y a un distinguo maintenant. On a l'exemple, l'IDRP, numéro de référence et données supplémentaires qui sont fournies. Donc plus d'informations sur les circonstances qui entourent cela. Très bien, donc nous allons maintenant passer à Jim Pendergast. Et ensuite, une question sur l'Internet. Jim Pendergast, au niveau des jeunes pousses et des petites entreprises, c'est une exception sur le type à la règle. Quels sont les critères que l'ICANN va utiliser pour évaluer ces plans pour les jeunes pousses, pour les jeunes petites entreprises qui veulent se lancer? Et pour rebondir là-dessus, lorsqu'il y a un plan de lancement qui est approuvé, il y a des exceptions qui sont faites. Est-ce qu'il va y avoir une liste qui va être effectuée, ou bien est-ce que les personnes qui sont déposent leur candidature doivent gérer autrement la situation? Oui, donc le processus tel qu'il est actuellement en vigueur, je vais appeler ça des critères que l'on prend en compte à l'ICANN lorsqu'il y a un programme de lancement proposé. Je crois que c'est le terme exact. Est-ce que cela peut contribuer à des droits de propriété intellectuelle qui soient enfreints? Et est-ce qu'il peut y avoir une confusion dans l'esprit des consommateurs également? Vous nous avez décrit la situation. Il y a une exception, non pas pour limiter les droits de propriété intellectuelle, mais pour soutenir la communauté ou l'audience ciblée du TLD. Ça fait partie de l'analyse de la situation qui a un impact sur la protection des droits. Et vous avez également, si cela prête à confusion pour les consommateurs, et si cela peut avoir comme résultat quelque chose qui ne soit pas satisfaisant, qui puisse déstabiliser le TLD. Votre deuxième question avait trait à l'approbation, le programme d'approbation. On ne l'a pas encore lancé, ce système. Donc, on n'a pas encore beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais nous avons fourni... C'est un programme qui est approuvé pour d'autres TLD. Il y a donc cette supposition d'approbation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, cela semble tout à fait positif pour la communauté. Il n'y a pas eu de préoccupation à ce niveau. Donc, il ne va pas y avoir un registre central des plans de lancement approuvés. Il ne va pas y avoir une centralisation de cela. Donc, est-ce que vous avez créé une liste de tous les plans de lancement déjà approuvés ? Qui sont en déviation par rapport au programme de lancement standard. Donc, ils seront publiés dans le cadre des informations sur les lancements de nouveaux TLD. Nous y avons pensé, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous allons prendre la question qui nous provient de l'Internet. Un auditeur qui n'est pas ici, Connie Epimera. Oui. Est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu ce que vous avez dit sur les fichiers SMD ? Est-ce qu'il y a une transition ? Est-ce que je n'ai pas bien compris la période de 2 ans ? Quelles sont les règles pour les SMD ? Si le cas, quelle est la date limite pour les marques commerciales déposées ? Très bien, merci de cette excellente question. Par rapport aux transparents ayant trait au SMD et à la mise à jour de ce processus par rapport aux droits déposés, au départ, on ne savait pas quand les TLD seraient lancés, véritablement, la date de lancement. On ne savait pas quand on a utilisé ces SMD. Et on a estimé d'une manière très conservatrice que cela allait prendre du temps. On a voulu donner du temps à ces SMD pour se développer. Et nous avons donc les termes actuels de ce contrat. Nous avons eu soumission donc de ces dossiers de candidature. Et lorsque nous faisons la transition, la date d'expiration sera alignée avec la durée de l'archive, la longueur de l'archive. Et je crois que il n'y a rien à effectuer en ce qui concerne le titulaire des droits. Il y aura une date de révocation qui sera communiquée, qui sera annoncée bien en avance, et ce qu'il y aura simplement à faire, c'est utiliser un nouveau fichier. Oui, il y a des questions sur l'Internet. Votre raisonnement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une confirmation du titulaire de nom de domaine, pourquoi il y a cette période de 48 heures ? Est-ce que s'il n'y a pas eu d'acceptation, pourquoi il y a cette notification ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce délai ? Le modèle actuel brise le modèle ancien qui était le standard pour le lancement. Il me semble qu'il y a donc un nouveau modèle. Oui, bonjour Volker. Je vais essayer d'expliquer un petit peu plus clairement la situation et d'obtenir une confirmation sur la réponse à cette question, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est une experte technique, mais il me semble que les spécifications pour ce qui est des SMD et pour ce qui est également de la reconnaissance des requêtes et une période de validité qui existe. Et il me semble que c'était toujours considéré comme étant actuel. Donc je ne sais pas, je ne suis pas au courant véritablement, peut-être que j'ai oublié un de ces critères, mais je vais donc me renseigner, je dois me renseigner pour pouvoir répondre véritablement à votre question. Oui, merci. Merci. Dernière question de Dante Vermeer. En ce qui concerne donc ce système de centralisation, il y a une vérification. Il a les GTDLD qui ont des périodes limitées d'inscription. J'ai du mal à comprendre exactement comment cela fonctionne avec cette phase préalable de dépôt de dossier. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas indiquer des prix qui soient à un niveau décent, un niveau approprié, qui ne soit pas trop élevé, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas garder cela durant toute la phase préalable? En ce qui concerne, donc je réponds à votre question, soumettre donc votre marque commerciale pour centralisation durant la phase préalable, eh bien cela crée des avantages et apporte de grands avantages pour le calendrier, parce que vous avez une allocation, une affectation qui doit précéder la période d'inscription où l'on a l'allocation des noms de domaine. Donc vous avez des différentes périodes qui peuvent être simultanées. C'est pour les demandes qui sont prises et qui sont prises en compte, qui sont enregistrées. Mais vous avez l'allocation qui se fait dans la phase préalable avant même qu'il y ait une allocation durant la période limitée. Donc vous avez certaines priorités dans le calendrier. Cela dépend également des titulaires de nom de domaine et des opérateurs de registre. Ce n'est pas contrôlé totalement par l'ICANN. Il ne s'agit pas là seulement des critères de l'ICANN, mais également des titulaires et des opérateurs de registre. Donc il y a plusieurs autres personnes qui veulent poser des questions. Il ne nous reste que 8 minutes néanmoins, donc on va voir ce que l'on peut faire avec ces 8 minutes. Oui, Christina Rosapt, j'aimerais rebondir sur une question qui a été posée par Jim. Donc, est-ce que ICANN détermine raisonnablement que cela contribue ou pas à la confusion des consommateurs et à des marques commerciales qui sont enfreintes ou pas? Bon, c'est une bonne chose, mais est-ce que vous avez développé des critères, dites-vous, pour voir quand est-ce que l'on peut et comment on peut déterminer cela? Si ces critères existent, ce serait très utile pour toute la communauté, pour tous les opérateurs, pour les prestataires de services Internet, les FSI, ainsi de suite. Je crois que ce serait très utile lorsqu'on a un programme de lancement qui a été approuvé, qui a été publié, que l'on fasse savoir et communique plus au niveau des critères. Lorsque l'on dit que, en effet, ça risquait d'avoir une confusion, ou bien l'ICANN a conclu, après raisonnement, qu'il y avait un non-respect des droits de marque commerciale. Oui, merci beaucoup, Christina. Je prends note de ces suggestions. En ce qui concerne potentiellement plus de détails sur cette analyse et sur ce processus, en ce qui concerne l'approbation, le raisonnement pour l'approbation de cela, je vais revenir vers vous à ce sujet, mais j'ai pris note de vos préoccupations. Tony Honorato, La question est la suivante. Est-ce qu'il y a une intention de l'ICANN sur l'attente, une attente plus ou moins longue pour la résolution des litiges et des conflits potentiels et existants? Est-ce qu'il y a une question de bonne ou de mauvaise volonté qui se pose? Est-ce qu'il y a des standards qui doivent être pris en compte? Quelle est la position de l'ICANN à ce sujet? Oui, je vais essayer de vous répondre. Il y a un texte. L'idée, c'est que c'est le STI qui a fourni cette idée, et c'est au panel et en effet aux différentes parties prenantes d'expliquer leur cas. Je crois que c'est un petit peu au cas par cas. Donc c'est pour le moment, c'était pas encore très clair le poids qu'a ce panel d'experts. C'est la question qui se pose. Est-ce qu'il y a des standards d'établis? Oui. Je crois qu'on va le voir plus clairement à l'avenir avec le rôle de ces panels de résolution de litiges et de conflits. Nous allons voir un petit peu comment ils fonctionnent. Oui, Dirk. Oui. On a eu une réunion avec les noms domaines de premier niveau pour New York. Les noms qu'ils ont réservés déjà dans leur dossier de demande et de candidature. Ça, c'était l'année dernière, et la phase préalable est maintenant terminée. On a essayé de servir les intérêts de la ville de New York, et nous avons ces critères RPM dont vous nous avez parlé, mais c'est un mécanisme de protection des droits. Pour des villes comme New York, c'est très important d'avoir une exception à cette règle. On n'a toujours pas de réponse claire de l'ICANN à ce sujet. On se demande pourquoi on a tous se porté candidat pour obtenir ces exceptions. Et on ne voit pas comment on est traité sur un pied d'égalité. Oui, le processus qui a été utilisé est le suivant. Vous avez donc la spécification 7 qui est très claire à ce sujet sur la période préalable en accord avec donc différents critères et procédures qui seront développés et qui ont été développés par la suite. Ce que nous faisons, c'est établir et définir ce que doivent faire les opérateurs de registre. Vous avez exprimé le fait que les dépositaires de dossiers de demande doivent être très détaillés et développent des programmes en toute bonne foi. Et ce que nous avons noté, c'est qu'il y avait un besoin pour des exceptions. Des exceptions aux règles. Pour qu'il y ait présomption et supposition d'approbation, il y a donc des possibilités qui existaient pour que on règle certaines préoccupations de certains par rapport au respect des noms de domaine, des marques commerciales, de la propriété intellectuelle, et nous ne voulions pas affaiblir les critères de base pour tous les opérateurs de registre et pour tous les titulaires de noms de domaine. Donc, il ne nous reste que 2 minutes. Donc, je crois que Amadeo pouvait poser une rapide question au sujet, en effet, de ce service de prix, la tarification des requêtes et des demandes. On n'a pas de prix véritablement fixé pour le moment, et pour la période de 90 jours, ça va être le même tarif à la suite de 90 jours. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, je ne sais pas si ça va être utile, si ça fait sens. ces services, c'est une bonne chose. Au-delà de 90 jours. Si ça coûte 15 centimes, mettons, 20 centimes, pourquoi payer 20 centimes pour tout un nouvel enregistrement selon les résultats que l'on obtient? Donc je ne sais pas si ces sommes, cette tarification va rester la même, si elle va être la même avant ou après, avant la date limite ou après, durant la période de 90 jours ou pour une période plus longue, est-ce qu'il va y avoir un prix plus élevé si, en effet, on obtient un alignement donc, de ce nom de domaine avec ce qu'on a dans le système de centralisation des noms de domaine. Donc il me semble que on ne doit pas tous payer la même chose, ça dépend des services que l'on obtient, ça dépend du temps après lesquels on obtient ces services. Est-ce que ça doit être 15 centimes, 20 centimes pour toute inscription, quel que soit le résultat? S'il y a un problème de droit, de nom de domaine, s'il y a un problème de marque commerciale, de droit, qui est en frein ou pas? Oui, merci Amadeo, je comprends votre commentaire. Et je sais que vous avez déjà posé cette question auparavant. J'ai pris note et nous allons étudier la situation et vous répondre. Donc, Claudio, nous parlerons un petit peu plus tard parce que nous avons beaucoup d'autres séances qui commencent à 3h, à 15h, à 15h15. Donc, nous avons d'autres séances qui vont parler de ce thème précis. Donc, je vous remercie à toutes et à tous de votre participation. Karen, merci de ces présentations, de toutes ces informations. Et nous nous retrouverons un petit peu plus tard lors de notre prochaine séance.